Bulle d'histoire. Stéphane Dubreuil.
Wow.
Grande et petite histoire dans l'œil des auteurs de bandes dessinées.
Bonjour à toutes et à tous, une nouvelle bulle d'histoire s'ouvre sur Art District. Je suis avec Luc Brinjevic, qui est un scénariste de bande dessinée, mais il va nous en dire beaucoup plus. En entrée de cette émission, on a entendu un petit extrait d'un morceau de Klezmer, qui est une musique donc, de culture juive, plutôt d'Europe de l'Est, en rapport avec l'histoire qu'on va évoquer aujourd'hui, puisqu'on va parler de la sortie du quatrième tome d'une saga fantastique qui est la saga des frères Rubinstein que Luc a scénarisé, publiée par les éditions Delcourt. Bonjour Luc, je suis vraiment ravi de, à la fois de faire ta connaissance et de t'inviter dans cette bulle d'histoire sur Art District.
Écoute, enchanté aussi.
Première question traditionnelle et très très compliquée, qui es-tu ?
Oula.
Ah oui, non, mais c'est la question qui tue, ça, c'est pour mettre mal à l'aise mes invités.
Qui je suis ? Je suis un type de 55 ans qui est très très étonné au vu de ce qu'a été son adolescence. J'étais plutôt un garçon en retrait, on va dire. C'est le mec qui a un charisme de concombre, hein, qui essaye de lever l'enthousiasme des foules, mais qui en est bien incapable. Donc, je suis très, très surpris à 55 ans d'être scénariste depuis 30 ans et d'avoir réussi à capter l'attention de quelques personnes qui continuent de me suivre, je l'espère avec intérêt. Et en tout cas, pour moi, c'est un vrai bonheur d'avoir ces gens qui me sont fidèles. Et voilà, si je devais me définir, ce serait à travers un grand, grand étonnement.
On est là pour parler des frères Rubinstein. Est-ce que tu peux nous parler un peu à la fois de la genèse de l'histoire et en même temps commencer à raconter un tout petit peu le début de l'histoire pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas cette saga ?
Bah écoute, la genèse, ça remonte à loin, ça remonte à 94. Laurent Hirn, mon dessinateur sur Le pouvoir des innocents, me fait rencontrer un de ses amis qui s'appelle Fred Ruillier. Fred est à ce moment-là, il travaille en agence de pub, il est directeur artistique graphique d'une agence, il gagne excessivement bien sa vie. Et il a la malheureuse idée de vouloir revenir à ses premières amours, c'est-à-dire la bande dessinée. On se rencontre, on discute, on apprend à se connaître. Fred, c'est un mec hyper charmant. Ça donne tout de suite envie de se lancer avec lui dans quelque chose, parce que bon, il fait partie de ces gens et tu sens que tu peux parcourir des années avec plaisir. Et en discutant, on se rend compte qu'on a un même amour pour nos frangins, en fait, tous les deux. Alors lui, il a un frère qui s'appelle Jérôme. Ils sont très, très proches, un peu C'est un peu des jumeaux, on va dire. Ils ont la même passion pour la bande dessinée et une même façon d'aborder la vie. C'est des mecs très, très aventureux. Moi, je les ai connus tous les deux à Strasbourg. Et c'était des mecs qui régulièrement escaladaient la cathédrale de Strasbourg à main nue. qui vivaient à 100 à l'heure. J'ai un frère qui s'appelle Yves. On a des passions communes et on a des caractères complètement différents. En fait, du coup, j'ai proposé à Fred d'utiliser notre amour pour nos frères, pour raconter l'histoire de deux frangins, et en utilisant plus particulièrement la relation que j'ai avec mon propre frère. Moi, je serais plus le mec qui part... Alors, je t'ai dit que j'étais très, très en retrait, mais dans ma tête, j'étais un aventurier, quoi. Alors que mon frère, au contraire, c'est quelqu'un d'extraordinairement raisonnable. Je pense que tu as reconnu les caractères des deux, des deux frères Rubinstein. Et on est juifs tous les deux, donc je me suis dit, partons sur cette idée de à la fois d'étudier les caractères antagonistes qu'on a, mon frère et moi, et puis d'inclure ça dans notre judaïté. Et comme quand on est juif, on a un nom hébreu. Mon nom hébreu, c'est Salomon. Le nom hébreu de mon frère, c'est Moïse. Donc voilà, j'ai baptisé les deux frères avec nos deux noms secrets, on va dire. Comme des Indiens qui cacheraient leur vrai nom sous des noms plus américanisés. Voilà, et donc j'ai lancé cette idée d'une grande saga, développant le caractère de ces deux frères. Et puis le soir même, à la télévision, passait le film L'Arnaque de George Roy Hill avec Paul Newman et Robert Redford. Et je me disais, c'est génial. Enfin bon, visuellement, c'est magnifique, quoi. Les années 30 aux États-Unis. La mafia, tout ça, et du coup est venue l'envie de raconter l'histoire de deux frères juifs. Alors je ne sais pas pourquoi j'avais dans l'idée que ça, l'histoire démarrait dans une petite ville minière des États-Unis, que les deux frères étaient d'origine polonaise. Et je raconte tout ça à Fred, qui s'enthousiasme, mais il reçoit sa feuille d'impôt. Et je te dis, il travaillait en agence de pub et il gagnait extraordinairement bien sa vie. Je crois qu'à l'époque, il devait gagner quelque chose comme 80 000 francs par mois, je crois.
Oui, c'est beaucoup d'argent, ça.
C'est énormément d'argent. Mais ça pose un problème, c'est que si tu t'arrêtes, c'était dans une espèce de spirale infernale, tu es obligé de gagner de l'argent pour payer tes impôts. Mmh. Du coup, il n'a pas pu prendre le temps de faire de la bande dessinée parce que ça le mettait dans une position par rapport à l'argent inextricable.
Parce que scénariste de bande dessinée ne gagne pas 80 000 francs par mois, en fait.
On est d'accord là-dessus. On est d'accord là-dessus. Des chiffres que tu peux espérer avoir dans le cinéma, mais certainement pas en bande dessinée. Et donc, j'ai remisé le projet dans ma culotte et j'ai fait comme beaucoup de mes projets, je l'ai laissé mûrir au fil des années. Et le problème qui se posait, c'est qu'en fait, je voyais toujours ça comme un grand feuilleton, une grande saga. Et chaque fois que j'abordais un dessinateur, je lui annonçais que c'était mon projet à 1000 pages. Et quand tu annonces 1000 pages, ben, généralement, les gens, ils s'enfuient en courant.
Ouais.
Et il y a combien d'années maintenant? On est arrivé en Touraine, donc il y a une vingtaine d'années. Et je suis arrivé en Touraine parce que je connaissais Étienne Leroux et qu'il faisait partie des gens qui m'ont amené à venir vivre en Touraine après Strasbourg. Et je lui ai proposé ce projet. Et sur l'idée de 1000 pages, il était en panique totale. Donc l'histoire lui plaisait beaucoup, mais ce n'était pas possible. Puis en fait, Étienne a participé au projet 14-18, j'imagine.
Ouais.
Bien. Et pour ce projet, il fallait qu'il sorte deux bouquins par an. Et donc, en fait, il a fait appel à deux collaborateurs. Donc, il a monté une espèce de studio virtuel. Et grâce à ces deux collaborateurs, pendant 5 ans, ils ont travaillé effectivement au rythme de deux albums par an. Et ça a tellement plu, cette façon très fluide de travailler avec en plus Loïc Chevalier qui apportait un regard d'expert et puis une capacité à générer des décors d'une précision absolument incroyable, parce que Loïc adore se plonger dans tout ce qui est documentation, ce qui est moins forcément l'envie d'Étienne. Il avait envie de retrouver un grand projet comme 14-18, et puis il m'a demandé où s'en était mon projet de 1000 pages, justement. Et voilà, les frères Rubinstein s'est monté un peu autour de cette idée-là. Sauf que dans l'intervalle, j'avais moins envie de raconter une histoire qui se passait aux États-Unis. Enfin bon, quand j'ai démarré dans le métier, les États-Unis, c'était un fantasme. J'étais plus amateur de BD américaine, de films américains, de séries américaines. Donc, assez automatiquement, je générais des histoires qui se passaient aux États-Unis. Puis avec le temps, en apprenant à connaître l'histoire de France, à mieux connaître mon propre pays, ma propre histoire personnelle, j'ai eu envie de ramener tout ça en France, puis de rendre à travers les frères Rubinstein un hommage à mon propre père et à son frère, sachant que le frère de mon papa est mort à Auschwitz, que mon père a échappé à la rafle qui a entraîné la mort de son frère et de son père. Et donc, j'avais envie de raconter, de situer l'histoire en France. Il y a un bon tiers de la saga qui se déroule effectivement sur le territoire français. Et donc, au lieu de démarrer dans une petite ville minière américaine, l'histoire démarre dans une petite ville minière du nord de la France.
Ouais, parce que ce qui est intéressant, enfin plus qu'intéressant dans les frères Rubinstein, donc là le quatrième tome sort, il va y avoir encore je crois un cinquième tome qui va…
Il y en aura neuf en fait.
Neuf en tout, donc c'est vraiment une grande saga. Ce qui est extraordinaire et vraiment on a un grand plaisir de lecture, c'est que c'est une série qui brasse plusieurs genres. C'est à la fois, il y a du polar, il y a de l'aventure, il y a de la politique. Il y a de l'histoire de France, mais il y a aussi cette histoire entre les frères qui est une histoire dans l'histoire. Tu as réussi à tricoter un truc assez improbable où on apprend l'histoire et en même temps on suit ces deux frangins à qui il arrive un nombre de trucs absolument insensés, sans que ce soit jamais d'ailleurs artificiel. On a l'impression que les choses s'enchaînent avec une logique assez implacable.
Bah écoute, c'était l'envie justement d'Étienne de pas retomber dans une saga historique à la 14-18, mais d'avoir à la fois le côté historique qui lui plaisait beaucoup et puis qui permettait justement de justifier, d'amener et de permettre à Loïc Chevalier de pleinement exprimer son talent. Tout ça dans un contexte extrêmement romanesque, avec une saga qui pourrait être simplement l'histoire extrêmement tumultueuse de deux frères, sauf que leur histoire extrêmement tumultueuse se heurte à l'époque dans laquelle ils vivent. Et en fait, c'est une expression je trouve personnellement assez puissante de ce qu'est le racisme et de ce qui peut être un génocide, c'est-à-dire de voir des gens vivre et puis surtout de voir comment ils se retrouvent dans une période où ils deviennent des cibles. On a envie de les tuer simplement pour ce qu'ils sont, quoi.
L'histoire commence par donc les deux frères sont les enfants d'un tailleur d'origine polonaise qui vit dans un coron dans le nord de la France. C'est le seul tailleur, donc il fait les habits pour tout le monde.
Exactement.
Pour parler des deux frères, il y a Salomon qui est un gars un peu roublard, qui est un mec qui se débrouille quoi qu'il arrive. Comme dit son frère dans les ténèbres, c'est le seul qui va voir la petite lumière. Et puis on a le deuxième qui est Moïse, qui est un jeune élève extrêmement brillant, qui est un très très bon élève, qui est ultra doué. Et ces deux frères, au début, on sent qu'ils ont un destin qui les attend, qui est un destin plutôt brillant. Et ils vont, dès le départ, dès leur toute jeunesse, être confronté à l'antisémitisme. Voilà, on ne peut pas dire autrement. C'est-à-dire que le jeune élève brillant qui doit être nommé major de son école, finalement, c'est le, le fils du patron qui lui passe devant, et le fils du patron va accuser l'autre frère de l'avoir, enfin en tout cas, les gens vont accuser l'autre frère de l'avoir assassiné, alors qu'il n'a rien fait. Là, dès le début, on est vraiment plongé dans l'ambiance française des années 30.
Tout à fait, tout à fait. Dans cette espèce de nébuleuse un peu curieuse qui fait suite à des années de... Enfin, on est sur cette pente qui a suivi l'affaire Dreyfus, où on a une France qui reste extrêmement tendue par rapport à tout ce qui est... Enfin, dès qu'on parle des Juifs, on divise la France en deux, quoi.
L'autre chose qui est aussi très intéressante, c'est que le monde que tu décris n'est pas forcément toujours noir et blanc, et que chaque personnage a une part d'ombre et une part de violence. C'est-à-dire que même les juifs solidaires qui vont recueillir ces deux frères en cavale à Paris,
Les lâcher à un moment. Ouais.
Voilà, ils sont aussi prisonniers de leur façon de penser, quoi. Et les deux frères, ça va à chaque fois leur jouer des tours.
Bah oui, ils se retrouvent, en fait, on voit souvent la communauté juive comme une communauté très homogène, qui aurait un système de pensée. On dit souvent la communauté juive pense ceci, la communauté juive pense cela, comme si tous les membres de la communauté juive étaient, se référaient à un seul système de pensée, alors que justement, je voulais, à travers la série, montrer que la communauté juive est très disparate. Il y a d'un côté les juifs qui sont installés en France depuis des centaines d'années, qui sont très fondus dans le paysage, qui ont un peu honte d'être juifs, enfin en tout cas qui sont juifs mais qui ne le mettent pas forcément en avant, qui vivent leur judaïté de façon très privée en fait, qui correspond à une forme de laïcité en fait, enfin la laïcité de la France, hein. C'est-à-dire que la religion est du domaine privé. On a beaucoup d'immigration qui vient de l'Est, de jeunes juifs beaucoup plus pauvres, beaucoup plus revendicatifs, c'est-à-dire qu'ils sont très baignés dans la culture communiste. Et en tant qu'ouvrier, ils revendiquent énormément, mais ils ne parlent pas forcément français. C'est des gens très radicalisés, on va dire, d'une certaine façon. C'est de la du judéo-gauchisme. Si on veut se référer aux façons de parler d'aujourd'hui. Et puis d'un autre côté, il y a les Juifs d'Afrique du Nord, alors qui sont beaucoup plus flamboyants, qui ont aussi, qui sont beaucoup plus bruyants. Et en fait, justement, ils sont un peu comme les jeunes Juifs d'Europe de l'Est. Ils se heurtent à la bourgeoisie juive très installée, qui les regarde d'un très mauvais œil, parce que ils sont très revendicatifs par rapport à leurs origines et que. Eux, ils veulent se fondre dans la population et ils veulent que les Juifs restent discrets par rapport à ce qu'ils sont, parce qu'il y a eu tout un passé, qu'ils savent que les choses peuvent très très rapidement s'enflammer et qu'ils veulent vraiment mettre tout ce qui est revendicatif et mise en avant de la religion sous l'été noir.
L'autre chose que j'ai vraiment beaucoup apprécié dans la saga, c'est que on a deux personnages principaux, donc qui sont les frères Rubinstein, mais il y a toute une galaxie de personnages autour d'eux, et tous ces personnages autour sont pas des faire-valoir des héros. C'est des personnages qui ont leur vie propre et qui se développent aussi tout au long de la série. Je pense surtout au personnage du truand qui va aider Salomon.
Oui.
Suite à une histoire qu'on ne va pas raconter, parce qu'il faut lire les...
Oui, il y a un moment, il faut laisser un petit peu de surprise.
on ne va pas dire comment ils se rencontrent, mais ce personnage se développe vraiment beaucoup et devient vraiment un oublié de l'histoire.
Oui, c'est un personnage... Enfin, en tout cas, le tome 3 porte carrément son nom, hein, puisque... Le tome 3 s'appelle Le mariage Bensoussan, et alors bon, c'est pas lui qui se marie, c'est sa fille, mais ça va entraîner tout un tas de quiproquo et le mariage aura lieu une journée fondamentale de l'histoire de France. J'en dis pas trop non plus, mais c'est un moment justement où eux vont se retrouver dans la joie du mariage, confrontés à des manifestations qui ont lieu dans Paris de groupuscules d'extrême droite qui ont décidé de prendre d'assaut le Parlement français. Si je dis pas de bêtises, c'était le 4 février 1934. Ouais, c'est ça.
Oui, c'est ça. Oui, donc c'est un personnage qui prend beaucoup, beaucoup d'importance et qui aide les deux frères. En même temps, il a aussi ses affaires à régler. Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant d'utiliser les personnages secondaires pour être moteur de l'histoire, quasiment autant que les deux héros.
En fait, les deux personnages se construisent aussi par rapport aux gens qu'ils rencontrent. Donc, c'est important d'avoir des personnages forts qui les remettent en question, qui les obligent à bouger, à changer de chemin, à changer de direction, à reconsidérer ce qu'ils veulent faire de leur vie. Par exemple, à la fin de l'épisode 3, leur destin, on se rend compte que leur destin n'est pas forcément en France. Quoi.
Oui, parce qu'ils vont rencontrer la musique et ils vont rencontrer surtout le blues. Et le jazz, c'est ça qui.
Tout à fait, plus le cinéma qui va prendre une grosse importance. Puisque Salomon est personnage passionné de cinéma et qui dans l'épisode 2, va faire la connaissance d'un grand cinéaste allemand qui a dû quitter son pays à cause des nazis. Enfin bon, voilà, j'en dis pas trop non plus.
Un autre charme de l'album, c'est la reconstitution. Tu parlais tout à l'heure des décors, mais il y a plus que ça. On va parler du camp de concentration un peu après, mais on va surtout parler des reconstitutions à la fois du nord de la France, mais de Paris. On est vraiment baigné à la fois dans les quartiers, on va dire les quartiers juifs, même si c'est pas tout à fait exact, mais aussi dans la zone, parce qu'à un moment donné, ils vont se réfugier dans des endroits un peu discrets pour échapper à la police.
Tout à fait.
Là aussi, ça fait vraiment partie du charme de l'album, c'est qu'on est plongé dans ce Paris et avec un luxe de détails absolument incroyable.
Ça, c'est grâce à Loïc Chevalier, hein, comme je te disais. C'est un garçon qui adore... déjà, c'est un garçon génial qui est assez obsessionnel. J'adore ses obsessions. Il veut que ça fasse vrai et donc ça devient vrai grâce à lui. Quoi.
On a tout de vrai parce qu'on a l'impression d'avoir les odeurs, d'avoir tout. Quoi. On marche dans la boue. Enfin,
effectivement, c'est entre les obsessions de Loïc, les cadrages d'Étienne et les couleurs d'Elvire de Coq. Ça forme un ensemble qui recrée complètement un Paris à la fois, comme tu dis, visuel et olfactif. Il y a des fois même, on sent la façon dont la lumière se diffuse dans Paris à ce moment-là. Quoi. C'est assez dingue. Et je me permets d'être très enthousiaste par rapport à tout ça, parce que justement, c'est décroché de mon travail, parce que moi, je le suggère, mais c'est vraiment Étienne, Loïc et Elvire qui donnent la vie dans tout ce qui est visuel et cette reconstitution absolument incroyable de Paris, du nord de la France. En plus, Elvire étant belge, elle a donné à notre nord de la France les couleurs qu'elle connaît bien. Enfin, c'était fou, quoi. C'était une rencontre extraordinaire.
Alors, cet album, il est construit aussi avec des flashbacks et avec plusieurs histoires qui se déroulent en parallèle. D'ailleurs, là, je dois dire que je suis assez estomaqué par ta technique d'écriture qui fait que tout ça se mêle absolument harmonieusement et on n'est jamais surpris de passer d'une époque à l'autre.
En fait, je pars toujours du principe que tu peux travailler sur plusieurs temporalités, mais à condition que les temporalités se répondent. Quoi. C'est-à-dire qu'il faut créer une espèce de logique dans ta façon de circuler dans le temps. C'est-à-dire que tu as une question dans le présent qui appelle un flashback, il faut que ça se fasse de façon assez naturelle.
Oui, tout à fait.
Ensuite, de repartir vers le présent, il faut aussi que tu sentes que ce qui a existé dans le passé va conduire justement à ce présent. Puis comme ça, tu arrives à créer de façon un peu sinueuse mais logique un fil narratif qui te permet de passer d'une époque à l'autre en créant finalement une histoire assez linéaire.
Oui, il y a même
mais qui saute d'un temps à l'autre. Quoi.
Il y a même le travail de la couleur permet aussi là aussi de passer très subtilement d'une époque à l'autre. C'est remarquable.
Voilà, moi j'essaie de créer le lien et elle vire par ses couleurs. Elle arrive à justement distinguer les époques pour qu'on ne soit pas surpris de passer d'une époque à l'autre et qu'on se rende bien compte qu'on vient de faire le saut.
On a parlé beaucoup de Paris et des années 30, mais évidemment l'histoire a un pan dramatique, comme tu le disais au départ.
Ouais.
C'est qu'un des deux frères qui va être pris à un moment donné dans une rafle et qui va se retrouver à Sobibor, donc dans un camp de concentration et d'extermination.
On peut même le dire. Ouais.
Il y a les deux parties, mais enfin, camp d'extermination. Et par une chance extraordinaire, le commandant du camp a tué le coiffeur du camp et ça va être la chance de Salomon,
de Moïse.
Ça va être la chance de Moïse puisqu'il va se proposer comme coiffeur, lui qui a une petite formation de coiffeur, et il va devenir le coiffeur du camp.
Mm-hmm.
Comment tu as eu cette idée? Est-ce que c'est une véritable histoire ou c'est totalement inventé? Sachant qu'on sait aussi que dans les camps, il y a des histoires incroyables qui ont pu se passer.
Non, moi, c'est totalement inventé. Bah, c'était l'envie de le retrouver à un point où... Il a un rôle un petit peu privilégié puisque ça va devenir un peu le chouchou des nazis. C'est justement, tu parlais tout à l'heure qu'il n'y a pas de personnage blanc ou noir. Moïse, c'est pas le gentil juif. Il a une façon de survivre, c'est-à-dire qu'il a baigné dans les techniques de son frère, quoi. Et on sent que ça finit par infuser, quoi. Donc il voit l'opportunité, saute dessus et ça devient un personnage un peu ambigu, on va dire, puisque il utilise sa position pour essayer de survivre le plus longtemps possible dans un camp qui est en fait un camp où les Juifs sont destinés à disparaître.
Oui, c'est ambigu, mais il faut qu'il sauve sa peau aussi, c'est ça le...
Ah, c'est ça, c'est-à-dire que toute l'ambiguïté finalement des Juifs qui ont survécu au camp d'extermination, c'est de savoir comment ils ont survécu, et il y a toujours une part obscure hein, dans tout ça, puisqu'il a fallu montrer de la déférence, être à la botte des nazis, ne pas les contrarier, éviter de se retrouver dans des situations où justement on se met en porte-à-faux par rapport à eux, on crée de la tension, et la tension finit par ce que le mec il sorte son revolver et finisse par te tuer. Donc il y a un côté très larvaire, servile dans la façon dont tu survis dans ces contextes-là, et ça crée des personnages d'autant plus intéressants qui évoluent dans cette ambiguïté-là.
Ouais, et là aussi, ce qui est très fort dans ce que tu racontes et ce qui est dessiné dans le camp de concentration, c'est qu'il en faut très très peu pour montrer l'abomination de ce camp, et on voit évidemment jamais de gazage de personnes, mais tout est extrêmement suggéré, et suggéré avec une extrême violence, tout en restant très, presque évanescent. C'est vraiment très très ténu. Quand le coiffeur est confronté à des choix, on est plongé immédiatement dans l'abomination de ce qu'est cette entreprise nazie.
Mm-hmm.
Ça, j'ai trouvé ça très 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 fin, et je dirais que ça permet de mettre ces albums dans les mains de tous les âges. Ça aussi, c'est important, je trouve.
Oui. Après, ce qu'il y a, alors, je sais pas si on peut en parler ici, si c'est trop tôt pour en parler. L'avantage aussi de Sobibor, c'est que c'est le seul camp d'extermination où il y a eu une évasion massive. Donc c'était aussi la possibilité de placer un enfin, se placer dans un contexte optimiste, on va dire, de pas juste aller jusqu'à la mort d'un des personnages principaux dans les camps d'extermination. C'est qu'on, pour peu qu'on connaisse un peu l'histoire de Sobibor, on peut imaginer à travers le personnage de Moïse qu'il va y avoir pour lui un après.
Ça, on verra dans les tomes suivants, parce qu'il faut, faut quand même les acheter pour les lire. On va pas tout dévoiler. On a plus beaucoup de temps, parce que l'émission est à un temps défini, voilà, comme on est à la radio. Mais avant de finir, je voulais qu'on parle de la couleur de cet album et du travail de Elvire, que j'avais reçu dans une bulle d'histoire il y a 2 ans et demi maintenant. Quel est l'apport d'une coloriste de cette qualité dans un album, dans une série comme les frères Rubinstein?
Ben, c'est plein de choses. Hein. C'est Elvire, ce qui est génial. Enfin, elle nous l'expliquait l'autre jour. On a fait une petite pour fêter la sortie du tome 4. Toute l'équipe des frères Rubinstein était réunie dans mon jardin, donc on a eu l'occasion d'échanger sur la façon dont on collabore. Et en fait, Elvire disait que le dessin d'Étienne tenait déjà tellement bien debout tout seul qu'elle pouvait vraiment apporter beaucoup de choses qu'elle ne pouvait pas se permettre de faire sur certains autres albums. C'est-à-dire d'apporter beaucoup de sensations à travers la couleur, quoi, de créer vraiment des atmosphères très émotionnelles et beaucoup moins indicatrices de les arbres sont verts, le ciel est bleu, d'aller beaucoup plus loin que ça, quoi. Et c'est drôle parce que nous on la pousse souvent, des fois on la trouve, enfin c'est rare, hein, c'est rarissime, mais quand on se dit mais c'est juste de la couleur ce qu'elle a fait, quoi. Alors on lui dit ouais non mais va plus loin, lâche tout, mais elle le fait assez naturellement. Et justement quand on retombe sur des choses beaucoup plus basiques, ben on est un peu frustré, alors on retourne vers elle et puis on lui dit vas-y lâche-toi, fais comme d'habitude, quoi.
Bah Luc, je te remercie d'avoir passé cette grosse demi-heure avec moi pour parler des frères Rubinstein. Voilà, on pouvait.
Écoute, c'est moi qui te remercie beaucoup.
Hein, en parler longtemps. Je rappelle tout ce qu'il faut savoir pour trouver l'album. Donc Luc Brunjvic, tu es le scénariste. Les dessinateurs, c'est Étienne Leroux et Loïc Chevalier. La couleur est faite par Elvire de Coq. C'est publié par les éditions Delcourt. Il y a 71 pages de bonheur par tome. Le dernier s'appelle Les Fils de Sion et c'est au prix de 15,95 €, ce qui me paraît quand même une somme raisonnable pour autant de plaisir. Voilà.
Merci beaucoup.
Je te remercie et je te dis surtout à très bientôt.
Bah écoute, à bientôt et un grand, grand merci pour ce temps donné, parce que c'est précieux d'avoir une demi-heure comme ça à avoir pour parler d'un projet comme celui-là.
Je te remercie. À bientôt.
À bientôt.
Bulle d'histoire. Bulle d'histoire avec Stéphane Dubreuil.
Waouh !
Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30.